France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'était en 1991, Jean Dève consacrait une série de 4 émissions du Pays d'ici au TNS, le Théâtre National de Strasbourg, dont Jean-Marie Villégier, succédant à Jean-Pierre Vincent et à Jacques Lassalle, venait de prendre la direction depuis quelques mois. De ces 4 émissions, nous allons entendre la première. Jean-Marie Villégier y évoquait comment, avant d'en devenir le directeur, il était arrivé au TNS et exposait les différents points du projet qu'il souhaitait y mettre en œuvre en insistant sur sa volonté d'en faire un foyer de création et de redécouverte du théâtre baroque et classique. Une émission dans laquelle intervenait Pia Jung, grande figure de l'art vivant de la région alsacienne, formée au Centre dramatique de l'Est, l'ancêtre du TNS, le costumier Patrice Cochetier, Jacques Albert, alors administrateur du TNS, la comédienne Hélène Schwaller, formée au TNS, comme Christophe Galland, alors collaborateur de Jean-Marie Villégier, qui décrivait la manière dont ce dernier abordait le théâtre du XVIIe siècle. Et pour poser le décor de cette première émission, le philosophe Philippe Lacoulabarthe évoquait ce qu'avait été sa rencontre avec le TNS et son travail avec Jean-Pierre Vincent en expliquant pourquoi ce Théâtre National de Strasbourg était à ses yeux, au-delà de Strasbourg et de l'Hexagone, l'une des grandes scènes de théâtre du monde. Le Pays d'ici, théâtre à Strasbourg, première d'une série de 4 émissions, réalité d'un théâtre et de sa direction, diffusée le 28 mai 1991 sur France Culture.
Un bateau arrive dans votre dos. Comment est-ce que vous voyez cette arrivée?
Alors historiquement, il y a 15 ans quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Actuellement, je vois qu'il y a énormément de touristes intérieurs, français intérieurs, qui viennent. C'est ça, on dit français intérieurs, parce que l'Alsace est français extérieur. Qu'il n'y avait pas quelques années, il y a quelques années. Il n'y avait que les Allemands qui venaient. Et
le français intérieur prend le bateau, panoramique.
Oui. D'ailleurs, pour eux, c'est... Et d'ailleurs, je leur comprends, parce que quand vous allez à Toulouse, quand vous allez à Bordeaux, quand vous allez à les autres villes de la France, je vois que pourquoi ils aiment l'Alsace, parce qu'il y a quelque chose. Qui est d'ailleurs.
Il y a des orties dans le paysage, et des saules pleureurs. Nous allons aborder la vie tumultueuse du Théâtre National de Strasbourg, le TNS, et de son école. Jean-Marie Villégier vient de prendre ses fonctions de directeur, succédant ainsi à Jacques Lassalle, lequel succédait à Jean-Pierre Vincent. Jean-Marie Villégier nous dira ses projets et comment il pense utiliser un tel instrument de travail qui met en perspective un théâtre, une école une région, une ville, un public. Entouré de son assistant Antoine Girard, de Philippe Lacoulabarthe, philosophe, Pia Jung, responsable de la DRAC, Jacques Albert, administrateur, Hélène Schwaller, comédienne.
Le théâtre de Strasbourg, les gens, ils vivent avec. Comme exactement l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. C'est-à-dire, moi, j'ai pris le goût de théâtre et orchestre philharmonique, la musique classique, grâce à la ville de Strasbourg. Parce que, même si vous n'avez pas envie, il y a tellement de publicité, il y a tellement de... Parmi vos collègues, ils y vont, ça vous donne envie d'y aller. De ne pas être marginalisé au début. C'est une ville qui attire parce qu'il y a culture juive, culture protestante et catholique.
La culture psychanalytique alors ?
Oui, c'est ça. Parce que, vous savez, dans la psychanalyse, il y a beaucoup d'exilés. Beaucoup. D'ailleurs, quelque part, c'est une exil, la psychanalyse.
Vous ne trouvez pas que le théâtre également...
Exactement. Exactement. Parce que c'est dommage que ça coûte cher un petit peu. Ça devient doucement, doucement un petit peu pour les classes nobles ou la classe...
À l'État ou aux citoyens ?
Aux citoyens. Aux citoyens.
Moralement, vous voulez dire ?
Non, économiquement parlant. Économiquement parlant, c'est... Bon, moi, j'y vais, mais il ne faut pas oublier que... Et bon, heureusement, il y a les autres.
Vous voulez dire le prix d'une place ?
Oui, prix d'une place.
Pas le budget de 47 millions.
Non, non, prix de place, parce que le budget, c'est pas beaucoup.
Que d'affectation et de forfanterie.
Que voulez-vous ?
Vous dire.
Ah mon Dieu, je vous prie. Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir.
Comment ?
Ouvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, ces âmes sont blessées et cela peut venir de coupables pensées.
Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter moi, je ne suis point si prompte, et je vous verrai nue du haut jusqu'en bas, toute votre peau ne me tenterait pas.
Après Gérard Depardieu, essayons nous aussi d'entrer dans le théâtre. Nous sommes dans une salle de musique assez extraordinaire qui fait partie de l'école du TNS. Et je crois, Philippe Lacoulabarthe, que vous reconnaissez un peu ces lieux extraordinairement tamisés, mystérieux peut-être. Qu'est-ce que vous faisiez dans ces lieux ?
On a fait d'abord plusieurs fêtes à la fin de représentation ou à telle ou telle occasion. Et puis, c'est un de ces lieux, il y en a beaucoup dans cette maison, qui pouvait servir à faire des improvisations quand on était en période de répétition. Et qu'on essayait de trouver quelque chose, comme on dit, pour telle ou telle scène.
Alors, vous êtes philosophe, pourquoi et comment avoir rencontré le théâtre ? Qu'est-ce que le théâtre a apporté dans votre parcours de philosophe ?
Bon, ça fait deux questions distinctes. La première, comment, en tous les cas, pourquoi ça ? Je ne le saurais jamais, mais comment ? C'est parce que je connaissais un petit peu Jean-Pierre Vincent, je connaissais des gens qui travaillaient avec lui, et l'un d'entre eux, qui est Michel Deutsch, m'a demandé de préparer pour lui la traduction allemande par Hölderlin de l'Antigone de Sophocle, et de travailler d'abord avec des élèves, et puis ensuite avec les comédiens, avec la troupe à l'époque. Et de monter ça en collaboration, ce que j'ai fait. Puis ensuite, on a continué à travailler ensemble, et donc j'ai fait un petit peu de théâtre. Plutôt, je pense, comme dramaturge que comme véritable metteur en scène, et plutôt comme traducteur, puisque la plupart des choses que nous avons faites, c'était des traductions, soit de l'allemand, soit du grec. Et deuxième question, alors pourquoi, j'en sais rien. Hein. Bon, parce que je pense que Deutsch savait très bien que je faisais un enseignement qui concernait Hölderlin, que j'avais touché à la théorie de la tragédie, et qu'il a eu l'idée qu'on pouvait faire un travail comme ça de quelques années ensemble sur sur la tragédie.
J'avais une autre question, en fait. Le TNS, pourquoi le TNS? Est-ce que c'est une forme de rencontre dans la vie d'un penseur, d'un lecteur, par exemple? Est-ce que c'est un lieu incontournable, important à la fois dans une région comme l'Alsace et dans une ville comme Strasbourg?
Oh, ça va plus loin que ça.
Ça va jusqu'où?
Ça, peut-être que je saurais assez difficilement le dire. En tous les cas, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Cette rencontre avec le théâtre. Je pense que le TNS est, depuis même avant Vincent, hein, parce que moi quand je suis arrivé ici, c'était Gignot qui était encore là. Bon. C'était déjà quelque chose de très important et qui, me semble-t-il, était largement plus... comment dire ça ? Plus important simplement qu'un théâtre régional ou un théâtre de ville, ou c'était, et même mieux qu'un théâtre national. Enfin, je pense que bon, le type de travail qui s'est fait comme ça depuis une vingtaine d'années auquel j'ai pu assister à Strasbourg, c'est un travail de niveau réellement international. Enfin, c'est une des grandes scènes de ce monde. Bon. Et puis, il y a eu des choses vraiment remarquables. Ou dans le style de l'expérimentation, moi je pense à quelqu'un que j'aime bien et avec qui j'ai un tout petit peu travaillé comme ça, comme Engel, ou dans un style peut-être plus classique, etc. Mais il y a toujours eu quelque chose de vraiment très important, et je crois que c'est une scène qui compte.
Ce qui est intéressant avec Vincent et Engel, c'est d'avoir mis au fond une ville comme Strasbourg et le théâtre en crise. C'était au fond un comportement assez radical.
Ah, c'était très radical, oui.
Qui serait peut-être impossible aujourd'hui. Enfin, Jean-Marie Villiger nous le dira tout à l'heure.
Ça, je ne sais pas si ce serait impossible aujourd'hui. Bon, on ne peut pas préjuger de... Il faudrait voir. Enfin, je pense que le type d'expérimentation qu'a autorisé Jean-Pierre Vincent... c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait retenter aujourd'hui, il me semble.
Puis Yayon, j'aimerais bien, pour planter le décor, un souvenir d'un grand moment du TNS.
Et il y en a beaucoup, parce que...
Un seul.
Ça demande une récollection assez rapide, effectivement. Il y a parmi les grands souvenirs que j'ai, parce que j'ai vraiment beaucoup de souvenirs. J'ai été une élève de cette école il y a très longtemps. Mon fils a été élève dans cette école, ça constitue déjà une manière de dynastie. Alors, j'ai des souvenirs. Mais parmi les grands souvenirs que j'ai, ça se rapporterait à l'Antigone dont parlait Philippe tout à l'heure. Et cette première Antigone qui était dans ce lieu disparu, qui est cette ancienne caserne, qui était un bâtiment admirable, superbe, dont il ne reste que le fantôme dans des herbes folles, armoises et bouillons blancs. Et là, il y avait une sorte d'harmonie profonde, organique, entre la scénographie, qui était une sorte de scénographie verticale. On était suspendu et on voyait, comme dans un puits, la tragédie se dérouler. Et il y avait donc une adéquation organique entre le lieu, la scénographie et les comédiens. Cette émotion théâtrale, je l'ai rarement ressentie depuis. C'était un très très grand moment de théâtre. Il y a eu un autre moment qui était parallèle d'ailleurs, parce que l'année d'après, le lieu avait disparu. Et lorsque Philippe Lacoulabart et l'équipe ont repris cette Antigone, c'était au bord de l'eau. Et là, c'était une mise en scène totalement horizontale. Et dont la beauté était aussi complètement fascinante.
Mais vous étiez satisfaite de ce théâtre parallèle?
Ah oui,
à une salle comme celle du TNS.
Je trouvais que, en fait, le théâtre gagnait des lieux, mais ne perdait pas son cœur. C'est-à-dire, le cœur, c'est ici.
Ouais, enfin, rester inhabité malgré tout.
Ah, pas vraiment, non. Il y a eu beaucoup de spectacles qui se sont faits ici et dont j'ai également de grands souvenirs. C'est Engel qui essentiellement a jouer un peu l'externement du théâtre, Mais il y a eu la plupart des spectacles se sont joués vraiment dans cette salle, qui est une fort belle et fort bonne salle.
C'est une ville merveilleuse. C'est la seule ville de province où de mon province n'a absolument aucun sens. Il y a la proximité de l'Allemagne, il y a la possibilité de voir des choses très passionnantes, pas loin, à Stuttgart, à Mannheim, tout ça. Et il y a un attachement au théâtre qui reste beaucoup plus fort qu'ailleurs. Vous savez, il y a une chose que j'ai compris tout de suite en arrivant là-bas, que j'ai observé, je l'ai observé, c'est qu'il y a un cabaret, c'était une seule ville de France, je ne sais pas s'il fonctionne encore maintenant, dirigé par un homme tout à fait épatant qui s'appelle Germain Muller. Le cabaret s'appelle le Barabli, ce qui veut dire le parapluie. Hein, et un cabaret satirique qui fait une revue par an, qui démarre généralement aux environs de Noël et qui se joue pendant 3-4 mois à Strasbourg, et qui est violemment satirique sur les affaires municipales. Or, Germain Muller, après des années de Barabli, s'est présenté au conseil municipal et il a été élu triomphalement. Est-ce que vous imaginez à Niort, ou à Château-Chinon, ou à Lyon, ou à Perpignan, le directeur d'un cabinet satirique, élu conseiller municipal, facilement, et nommé par le maire chargé des affaires culturelles. Quand on comprend ça, on comprend toute l'Alsace. C'est-à-dire à la fois une extrême fidélité aux institutions, au passé, beaucoup de traditionnalisme, mais en même temps, un désir de pouvoir attaquer, railler, rire. Les deux choses vont ensemble. C'est assez médiéval, d'ailleurs, d'une certaine façon.
Vous êtes apparemment costumier et vous avez eu la grande chance de travailler avec Jean-Marie Villégier. Alors, comment peut travailler un costumier pour Jean-Marie Villégier, fou de baroque ?
Avec un autre fou de baroque. Non, c'est assez simple puisque le travail de Jean-Marie repose essentiellement sur une culture. Il s'agit de retrouver, de rendre vivante, parce que le 17e, ça a l'air d'être une chose comme ça évidente, qu'on connaît. Molière, Racine, Corneille, et puis hop, terminé. Alors qu'on s'aperçoit, de même qu'on s'en est aperçu pour la musique, qu'il y a tout un continent qui surgit de l'ombre et qui était absolument oublié. Jean-Marie, à l'aide de petits fragments, commence à tirer tout un continent derrière lui. Et on s'aperçoit que des pièces que le 18e et le 19e avaient jetées aux orties retrouvent un intérêt aujourd'hui qu'on avait oublié. Généralement, sur un spectacle, il y a un document qui lui donne un déclic. Et à partir de ce déclic, on travaille. Par exemple, pour Attis, ça a été la suite des chambres, la suite des antichambres du roi, qui sont des gravures de la fin du règne de Louis XIV. Aujourd'hui, j'ai oublié l'auteur. Avant, je le savais par cœur.
Vous pouvez les décrire ?
Oui, ça représente des personnages de cour, un peu figés, comme devant un objectif. C'est des gravures en noir et blanc, dans des grandes salles vides, des personnages très précieux réunis autour d'un élément comme une table, un concert, le billard du roi. Et à chaque fois, chacune des pièces, on sent qu'elle n'a pas de fonction précise, que c'est parce que les gens sont réunis là en faisant une action précise que le lieu est déterminé. Et il y a une évidente volonté de paraître de tous ces personnages-là. Et il a semblé à Jean-Marie que cette image de la cour vieillissante de Louis XIV parlait beaucoup plus d'Attis que une éventuelle iconographie gréco-latine ou même des toiles de Lebrun. Ou... Donc on est parti de l'impression funèbre, un peu funèbre, crépusculaire que donnaient ces gravures pour élaborer le spectacle d'Atis. Très bizarrement, ça, avec Jean-Marie, c'est à l'aide de choses de l'enfance que je retrouve, des impressions d'enfance que je retrouve dans les spectacles. C'est-à-dire finalement, c'est à la fois les choses les plus érudites que je fais et en même temps les plus naïves. Parce que je crois que pour rêver comme il le fait, c'est tout ce continent baroque, il faut une certaine dose de naïveté.
C'était un premier portrait de vous, Jean-Marie Villégier. Il y en aura d'autres. Et j'aimerais vous demander, au fond, votre parcours au théâtre pour les auditeurs.
Et mon parcours au théâtre commence en 1945 et je répondrai à votre question en y ajoutant la question que vous posiez tout à l'heure à Philippe Lacoulabarthe. Lorsque vous lui demandiez comment il était venu au théâtre, je vous répondrai, j'y suis venu en 1945, j'étais pas bien vieux, j'avais 7-8 ans. C'était en plein air, c'était par hasard. C'était sur les fontaines du Trocadéro, là où, beaucoup plus tard, Jean Villard allait s'installer et faire tout ce qu'on sait depuis. On représentait Horace. Mes parents avaient hésité à m'emmener là. C'était quelques vieux comédiens, dont certains sans doute assez ringards, de l'Odéon, qui jouaient Horace. Et je me souviens encore d'une sorte de... Récamier avec peau de tigre sur lequel se trouvait Sabine, et je me souviens aussi de l'immense défilé, c'est pas exactement cornélien et les trois unités n'étaient peut-être pas tout à fait respectées, de l'immense défilé où tout ce qui pouvait traîner dans les ateliers de l'opéra, dans les fonds de l'Odéon et de la Comédie Française, de costumes à la romaine, avait été réquisitionné pour faire des funérailles dignes de ce nom, grandiose, qui m'avait beaucoup impressionné. Le lendemain, par hasard aussi, je me suis trouvé avec mes parents devant une boîte de bouquinistes sur les quais. Et là, une vieille édition classique d'Horace traînait. Je l'ai demandé, j'ai commencé à apprendre par cœur le début d'Horace, que je peux encore vous réciter maintenant. Enfin, il ne faut peut-être pas que je m'engage trop. Et voilà comment ça a commencé. À partir de là, je crois que... j'avais décidé, à part moi, que ma vie serait une vie de théâtre. Pour moi, cette rencontre initiale est importante. Et elle est fondamentale dans la confiance que j'ai qu'un enfant de 8 ans qui ne sait rien de tout ça peut se trouver mis en présence d'un Corneille, et d'un Corneille pas tellement facile, et y adhérer sans trop savoir pourquoi et en comprenant la moitié. Peut-être même le quart.
Alors ça, c'est le début, mais aujourd'hui, vous êtes à la tête du TNS. Vous vous cherchiez sans doute, là, en 45, mais aujourd'hui, il faut trouver, il faut avoir un projet.
On essaiera. Oui, mais entre 45 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui, périodiquement, et de plus en plus, à mesure que le temps passait, m'ont ramené vers le 17e, pour le regarder d'un tout autre œil, et vers le XVIIIe siècle aussi. Parmi ces choses, peut-être la plus importante de toutes, est qu'au moment où j'étais en train encore de bricoler, et de bricoler, c'est très agréable de bricoler, je prends le mot dans un très bon sens, Jouvet disait, ce qu'il y a de bien dans le théâtre, c'est que ça laisse de la marge pour bricoler. Mais je bricolais là vraiment avec des bouts de ficelle, avec ce que je pouvais racler de mon salaire d'universitaire, pour acheter des éléments de décor, de quoi faire des costumes en tissu papier, des choses comme ça. Il se trouve que ce devait être en 79, Jean-Pierre Vincent et Claude Petitpierre, qui alors étaient responsables pédagogiques de l'école, m'ont invité ici à diriger un exercice. J'ignorais à l'époque que ça allait devenir une habitude Et j'ignorais à l'époque que cette maison, cette salle, les salles voisines allaient devenir mon berceau. J'entends le metteur en scène.
Je vais vous faire entendre une voix très intéressante que vous aimez particulièrement. Je vous laisse quand même commenter peut-être cette voix étonnante.
Oui, on aura reconnu celle de Sarah Bernard, bien entendu. La commenter, je la commenterai plus aisément s'il s'agissait d'un extrait de Phèdre. Mais commenter ce qu'on vient d'entendre, oui, pour dire que c'est le moment ou jamais de ressortir le vieux vocabulaire technique des comédiens de l'âge classique, de parler, et de parler aussi précisément que possible, ce que je ne ferai pas à ce micro, de parler de feu, de parler de flamme, et surtout de parler de foyer, parce qu'alors du foyer, elle en a. Je veux dire, cette capacité, ce talent et cette technique à vriller le texte dans l'attention de l'auditeur.
Est-ce que l'outil de travail du TNS que vous avez trouvé est dans l'état souhaitable pour mettre en scène votre travail, pour le montrer ?
En ce moment, moi, j'en suis à une rencontre avec l'outil. Je suis arrivé avec un projet. C'est sur ce projet que j'ai été nommé ici. Ce projet comporte de ma part un certain nombre d'engagements, bien entendu. Et ces engagements, j'ai bien l'intention de les respecter. Mais il est clair qu'ayant été pressenti à une date très tardive, en fait, je n'ai été pressenti environ qu'un mois avant ma nomination effective, il me reste encore maintenant tout un travail à faire, et qui est de me mélanger à l'outil, de faire que ce projet trop pur devienne un peu impur. Et c'est bien ainsi, parce que les projets de théâtre doivent être impurs pour être viables.
Alors je vous propose d'entendre un deuxième portrait de vous par Christophe Galland.
Cette manière, finalement, qu'il travaille sur le doute est quelque chose qu'il entretient jusqu'au bout, jusqu'au passage à la réalisation, jusqu'au rapport avec les comédiens, avec les chanteurs, ou même dans le rapport avec le costumier ou le décorateur. À partir du moment où des données de base sont présentes dans l'esprit, il y a tout un travail que Jean-Marie fait, et je pense qu'à un certain moment, j'ai pu lui permettre ça, c'était de l'accompagner dans une folie de metteur en scène, c'est-à-dire moi en tant qu'assistant, lui permettant de pousser loin l'improvisation à partir de données qui sont relativement construites. Il a surtout une manière en tant que directeur-rédacteur de montrer par son corps l'idée sur laquelle doit travailler l'acteur ou le chanteur. Mais pour ça, donc, il fait un travail presque, j'allais dire, de non pas caricatural, mais d'aller vers quelque chose qui soit très lisible, et en même temps, quand il le réalise lui, il le réalise, et ça a une humanité absolument bouleversante. C'est donc en même temps l'idée qu'il fait passer, et en même temps son humanité à lui en tant qu'interprète de sa propre idée, qui est le message utile pour l'acteur ou pour le chanteur. Bon, à part ça, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire, et qu'il fait d'ailleurs avec les acteurs, et il le fait aussi par rapport aux acteurs, c'est-à-dire leur... Mais il y a tout un travail, évidemment, sur la langue, sur la diction, sur l'alexandrin en particulier, que Jean-Marie Villégie maîtrise extrêmement bien. Enfin...
Très rapidement, Christophe Galland, est-ce que les différents responsables du TNS, Jean-Pierre Vincent, Jacques Lassalle et Jean-Marie Villégier, ont chacun un comportement par rapport au travail ? sur l'Alexandrin.
Une des préoccupations de Jean-Marie Villégié sur ce théâtre-là, sur ce répertoire, enfin du 17e par exemple, enfin, est véritablement l'Alexandrin. C'est-à-dire, d'autres hommes de théâtre ont pu la voir, comme Antoine Vitez. Lui, il est allé dans une direction particulière qui était celle de l'emphase, sur un traitement très particulier. Je crois que Jean-Marie Villégié, lui, il part d'une tradition qui est effectivement celle de Sarah Bernhardt, mais il la transforme. Et je pense qu'il travaille. Il travaille premièrement sur le. Il travaille sur une chose mêlée, synthétique, qui est du son et du sens, une sorte de synthèse entre les deux, qui fait que, par exemple, l'Alexandrin, en tant qu'il est 12 pieds et qui s'arrêterait là, n'existe pas chez Jean-Marie. Ça travaille sur des durées beaucoup plus longues, c'est-à-dire sur des périodes beaucoup plus longues. Une période peut faire une réplique entière, peut faire une dizaine, une vingtaine de vers à la suite. Donc le fait qu'un alexandrin soit suivi d'un autre ne veut pas dire automatiquement qu'on entende l'alexandrin comme une pièce autonome. Elle est toujours en relation avec ce qui précède ou ce qui suit.
Je m'agite, je cours, languissante, abattue. La force m'abandonne et le repos me tue. Phénice ne vient point. Ah, oh, cette longueur d'un présage funeste épouvante mon cœur. Phénice n'aura point de réponse à me rendre. Titus, l'ingrat Titus, n'a point voulu l'entendre. Il fuit, il se dérobe à ma juste fureur.
Nous abordons votre grand projet, Jean-Marie Villégié.
Est-il grand? Je n'en sais rien.
Il est gay, en tout cas.
Il existe. Il est gay, peut-être, oui. Oh, il tient en quelques principes directeurs que j'aimerais formuler, puisque vous me tendez le micro. Le premier de ces principes reposerait sur le fait qui, moi, me touche beaucoup, puisque c'est par l'école que j'ai commencé à connaître le TNS. Le fait qui donne sa singularité à cette maison. C'est un théâtre national, il ne faut pas l'oublier, mais ce théâtre national possède en son sein une école, et il est le seul à pouvoir le dire. Cette école a toujours été en relation avec le théâtre, et je me souviens en particulier de l'époque où notre théâtre avait une troupe, époque que pour ma part je regrette fort. L'idée de troupe m'est très chère, et elle m'est d'autant plus chère qu'il y a une école dans le théâtre, c'est-à-dire que les étudiants de l'école, lorsqu'il y a troupe, sont en relation quotidienne avec des comédiens qui vivent, qui travaillent ici. Cette relation-là était très forte. La disparition de la troupe fait qu'elle n'existe plus, et c'est dommage. Mais, quoi qu'il en soit, mon travail, en ce commencement, est essentiellement d'abattre, si elles existent, et elles existent un peu, je peux le constater, les cloisons qui séparent le théâtre de l'école, et aussi les cloisons qui, à l'intérieur de l'école, tendent, non pas à séparer, mais à rendre peut-être un peu trop autonome, un peu trop replié sur elle, chacune des sections qui composent l'école, à savoir la section jeu, comme on dit ici, que je préférerais appeler la section comédie, la section régie et la section décoration. Il y a là un travail d'autant plus passionnant à faire qu'il ne consiste en rien d'autre qu'en faire que la réalité rejoigne, autant que faire se pourra, le mythe, puisque l'école du TNS et le TNS lui-même sont des mythes, et de très bons mythes.
Alors j'aimerais me tourner vers l'administrateur, Jacques Albert. Est-ce que l'enveloppe budgétaire entre dans le champ des possibles ?
Au plan de la troupe permanente, il nous faudrait obtenir la création, j'imagine, d'une dizaine de postes budgétaires supplémentaires. Il me semble qu'actuellement, ce ne soit pas la volonté de la tutelle. Il faut dire, pour revenir sur cette question de troupe permanente, que la troupe de Jean-Pierre est morte de sa belle mort, dans la mesure où Jean-Pierre Vincent a amené avec lui un certain nombre des comédiens du Théâtre National de Strasbourg, et que d'autres, à ce moment-là, ont choisi de vivre leur vie de manière indépendante. Ceci explique la disparition de ces postes budgétaires. La recréation, évidemment, poserait problème à un certain nombre de négociations à entreprendre.
Est-ce que votre problème, justement, n'est pas de faire de Strasbourg et de la région un véritable vivier, un peu dans l'esprit de Vincent, par exemple, qui travaillait avec la Goulabart, Michel Deutsch, en fait, des gens qui étaient sur place?
Oui, vous rejoignez ici une seconde préoccupation et un second principe que je me donnerai à moi-même maintenant. C'est que il est essentiel que ce théâtre, qui est un lieu d'accueil, ça fait partie de sa mission, qui doit l'être, c'est-à-dire qui doit faire connaître au public strasbourgeois les grandes réussites du théâtre d'aujourd'hui, est aussi et doit être un foyer de création. Quand je dis un foyer de création, je ne veux pas dire qu'il doit être l'outil d'un metteur en scène. Ça, je ne crois pas. Je crois plutôt qu'il doit être, étant donné ses dimensions, un lieu de rencontre, de rassemblement, de regroupement. Or, il se trouve que depuis un certain nombre d'années déjà, et dans le sillage des musiciens qui, depuis plus longtemps, redécouvrent ce qu'on appelle le répertoire baroque, mot que j'abomine mais que j'utilise tout le temps, il y a des gens de théâtre, aussi bien metteurs en scène que décorateurs et comédiens, qui sont préoccupés de redécouvrir tout ce qui, dans ce répertoire, nous parle encore aujourd'hui. Je précise bien que si je m'intéresse à ce répertoire, ça n'est pas dans un souci archéologique. Et je précise aussi qu'en tant qu'universitaire et ayant longuement enseigné l'histoire du théâtre à l'Université de Nancy, jamais il ne m'est arrivé de faire un cours sur le théâtre baroque. C'est bien la pratique du théâtre qui m'a mené au baroque, et non pas l'étude du baroque qui m'aurait mené au théâtre comme un terrain d'application de recherche historico-théorique. Pas du tout. Pourquoi ? Eh bien parce que je crois que c'est dans ce théâtre-là que nous pouvons trouver aujourd'hui à repenser le visage que nous croyons avoir dans l'histoire du théâtre, je veux dire en tant qu'appartenant à l'Hexagone, et aussi peut-être tout simplement parce que l'école et les jeunes comédiens sont toujours présents dans ma pensée, parce que c'est dans un théâtre pareil, le comédien trouve énormément à s'épanouir. La barre est placée très haut, mais le plaisir aussi est très haut.
Alors abordons peut-être une lecture, puisque vous êtes une jeune comédienne, Hélène Schwaller, qui avait travaillé avec Jean-Marie Villégier.
Oui, j'ai travaillé avec Jean-Marie Villégier la première fois en première année d'école du TNS sur, si mes souvenirs sont bons, l'impromptu de Versailles de Molière et sur plusieurs pièces de Corneille, dont Sertorius. Et la deuxième fois, c'était en troisième année, où nous avons travaillé sur une pièce de Pierre de Larrivée qui s'appelle Le Fidèle et que nous avons d'ailleurs joué à Chaillot l'année dernière. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer Jean-Marie, d'abord pour notre première rencontre qui m'a fait aimer la tragédie, chose que je n'aimais pas auparavant, et qui m'a fait découvrir la tragédie. Voilà.
Sur la montagne, elle m'accompagne.
Nous sommes au bord de l'île, extrêmement verte, au milieu d'herbes très hautes, de saules, de peupliers. C'est un peu la campagne ici, docteur Cambise. Vous qui êtes psychanalyste et iranien, comment est-ce que vous voyez tout ça?
À l'époque, quand j'étais étudiant, je croyais qu'à Strasbourg, les Alsaciens sont froids. Mais depuis que je connais les grandes villes, et je crois que Strasbourg, les gens de Strasbourg, au moins, ne sont pas autant francs qu'on croit. Et culturellement, c'est une ville très, très riche. Entre autres, TNS, ou bien Théâtre et Jeunes Publics. Moi-même, en tant que psychanalyste, j'ai un pied dans un hôpital psychiatrique. J'envoie les malades que je travaille dans un hôpital de nuit, une fois par mois, au théâtre, avec tarif réduction, avec 20 malades, avec 5-6 infirmières.
Vous pensez que le théâtre est une excellente thérapie qui soigne, oui, qui guérit?
Parce que j'aime bien le théâtre. C'est pas pareil, parce que le théâtre est vivant. C'est pas pareil comme un film. Alors, et par ce biais-là, comme je suis partisan, j'aimerais soutenir les comédiens.
Vous pensez que la biche guérit mieux que Shakespeare?
Quelque part. Parce que c'est le réel. Ça veut dire... Et les comédiens mettent en scène le réel et l'imaginaire, l'imaginaire et le symbolique au réel. C'est-à-dire pour les patients, même pour les gens comme moi, n'importe qui, il est devant le réel, avec les comédiens, malgré que les comédiens eux-mêmes, ils sont artificiels. Ils jouent comme comédiens. Mais pour les publics, c'est réel.
Hélène Schwaller va nous lire les Alexandrins de Georges Bataille, je crois.
C'est ça. Les êtres particuliers comptent peu et renferment d'inavouables points de vue si l'on considère ce qui s'anime, passant de l'un à l'autre dans l'amour, dans de tragiques spectacles, dans des mouvements de ferveur. Ainsi, nous ne sommes rien, ni toi ni moi, auprès des paroles brûlantes qui pourraient aller de moi vers toi, imprimées sur un feuillet, car je n'aurais vécu que pour les écrire. S'il est vrai qu'elles s'adressent à toi, tu vivras d'avoir eu la force de les entendre. De même, que signifient les deux amants, Tristan, Iseux, considérés sans leur amour, dans une solitude qui les laisse à quelque occupation vulgaire. Deux êtres pâles, privés de merveilleux. Rien ne compte que l'amour qui les déchire ensemble.
Est-ce que vous reconnaissez là, Jean-Marie Villégie, la diction, la dramaturgie du TNS?
Je reconnais la voix d'Hélène Schwaller et un très beau texte de Bataille, et je suis heureux d'entendre l'un et l'autre. Quant à prétendre qu'Hélène Schwaller soit coulée dans un moule dramaturgico-technique,
est-ce qu'il y a une griffe TNS?
Une griffe TNS? Oh là là, j'espère que ce n'est pas une griffe. Ça me fait peur quand on me parle de griffe. Non, 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 il y a Hélène Schwaller et Bataille, et voilà. Et on ne demande rien de plus.
Alors passons au foyer, à l'idée de foyer.
Ah, oui, oui. Mais oui, tout à l'heure, je commençais à évoquer
ce que pouvait être l'activité de création de cette maison. Et je crois que, outre comme cette mission d'accueil qui est la sienne, elle doit être un foyer de création. Ça veut dire pas l'outil d'un seul homme, ça veut dire un lieu où de jeunes metteurs en scène ont l'occasion de faire leurs premières armes dans la mesure où leur désir les porte vers ce qui constitue la ligne de recherche principale de ce théâtre. Ça veut dire aussi que il ne s'agit pas seulement de produire des spectacles. Il s'agit de produire des spectacles qui aient valeur de rassemblement a eu en un moment de notre histoire où je crois qu'il est temps de rassembler, c'est-à-dire de multiplier les forces par la rencontre, de rassembler tous ceux qui s'intéressent à cette époque du théâtre. Mais quand je dis qu'ils s'intéressent à cette époque du théâtre, je devrais préciser qu'on ne va pas ici être saturé de baroque pur et dur, ou ce qu'on entend par baroque pur et dur, si on ne sait pas quelle richesse recèle l'époque en question. Quand je parle du XVIIe, j'entends bien sûr le XVIIe français, mais j'entends aussi le siècle d'or espagnol, j'entends les préclassiques français, j'entends les Italiens, j'entends une grande partie de l'Europe. Et quand je parle de foyer, j'entends la même chose. J'entends que autour des spectacles, et avant eux, et après eux, des réunions, des lieux, des rencontres nombreuses aient lieu, et avec ceux des intellectuels strasbourgeois qui voudront bien s'intéresser à ce travail, et aussi avec toutes sortes de gens qui ont besoin que leurs efforts convergent et se retrouvent en un lieu. Quand je dis toutes sortes de gens, qu'est-ce que je veux dire? Ben, je veux dire qu'il y a, et c'est tout à fait passionnant quand ces gens-là se rencontrent, il y a des gens qui cherchent, mais vraiment qui cherchent, au sens recherche du terme, vérifier que telle édition de 1663 est préférable à telle édition de 1661, et peut-être d'ailleurs que l'édition de 1661 n'est pas vraiment 1661, et d'ailleurs peut-être que l'éditeur d'Amsterdam n'est pas vraiment, etc., etc. Il y a les chercheurs. Et puis, il y a des gens qui sont les comédiens, qui pratiquent dans leur corps ces textes-là. Et puis, il y a des gens qui sont des gens qui travaillent sur la voix, des gens qui travaillent sur le geste, qui s'intéressent à tout ça, qui pratiquent un peu, qui ont à rencontrer des comédiens. Et puis, il y a des gens qui sont des décorateurs, et il y a des gens qui sont des historiens du théâtre, et il y a des historiens de l'éclairage de théâtre, et il y a des éclairagistes, et ainsi de suite. Et puis, il y a des metteurs en scène, à l'autre bout. Et ces metteurs en scène, comme je le disais tout à l'heure, sont des gens impurs, c'est-à-dire qui ne font pas de l'histoire, qui ne font pas de l'archéologie, qui aiment, bien entendu, le répertoire dont je parle, mais qui sont aimés par lui. Je veux dire qu'ils sont appelés de façon intime, secrète, par des énigmes dont ils ne voient d'ailleurs pas le fond et qui les concernent personnellement, c'est-à-dire que ce sont des artistes, je veux dire, des gens chez qui le privé et le public, le subjectif et l'objectif sont indémêlables. Les gens chez qui le subjectif et l'objectif sont indémêlables peuvent très bien, et c'est très intéressant, rencontrer les gens qui sont les gens de l'objectif pur, les chercheurs, et les gens qui travaillent sur le corps, et les gens qui travaillent sur le geste, et les gens qui travaillent sur la scénographie, et tout ce monde-là, et les gens qui travaillent sur la musique du même temps. C'est dire que autour des spectacles que nous proposerons, il faut que se rassemble beaucoup de monde. D'une part, parce qu'il existe du monde qui ne demande qu'à se rassembler dans un lieu et qui n'a pas ce lieu, et le TNS peut devenir ce lieu, et du monde pas seulement à Strasbourg, mais dans toute la France, et du monde pas seulement en France, mais dans l'Europe entière. Et aussi, je pense que c'est l'offre qui crée la demande, et que offrant un travail continu, persévérant dans ce secteur, on verra la demande se multiplier.
Est-ce que consciemment ou inconsciemment, vous prenez en compte la leçon de Vincent, la leçon de la salle, dans la mesure où le TNS entre quand même dans une durée maintenant?
Oui, je prends en compte ces leçons, et même il me semble que le TNS arrive à un âge où il est important que son histoire soit pensée, méditée, et je dirais aussi accessible. C'est l'un des projets que je forme pour ce théâtre que d'y créer enfin, et je sais que mes prédécesseurs y ont pensé. Mais enfin, il faudrait peut-être aboutir là-dessus, j'espère avoir la force de le faire. Il faut que cette maison ait une bibliothèque, une vraie, que cette bibliothèque ne soit pas seulement la bibliothèque de classe des élèves, mais qu'elle soit un vrai lieu de recherche et d'études, et que dans cette bibliothèque, on trouve enfin les archives de ce théâtre qui doivent être mises à jour, sorties des caves, où elles sont, et où elles sont incomplètes, elles doivent donc être complétées, et où l'histoire glorieuse de cette maison puisse être visitée à tout instant.
Merci à vous tous. C'était Le Pays d'ici en direct de la salle de musique de l'école du TNS. Aujourd'hui, réalité d'un théâtre et de sa direction. Mixage et prise de son, Marcel Lebras. Coloration technique, Daniel Leperdre. Réalisation, François Test.
C'est un théâtre qui s'est toujours illustré par des prises de position extrêmement solides et fondées. Je pense que l'Alsace et Strasbourg aident et forcent même beaucoup à ce sérieux. Quelles que soient les tendances et les questions du moment. Je crois que Jacques Lassalle n'avait pas à résoudre les mêmes questions historiques que nous avions à résoudre en 75. Et lui-même, en 75, quand il était à Vitry, a abordé les mêmes questions que nous à sa manière. Donc, je suis surtout sensible à la modification des époques.
C'était la première d'une série de 4 émissions du Pays d'ici consacrée au Théâtre National de Strasbourg. Première diffusion le 28 mai 1991 sur France Culture. À suivre.